Décryptage, Marie Casadebé.
Les Nigérians viennent à peine d'élire leurs députés et leurs présidents et d'offrir un second mandat à Muhammadu Buhari, qu'ils sont à nouveau appelés aux urnes. Samedi, ils devront choisir les gouverneurs de 29 des 36 États que compte le Nigeria. Après des élections générales perturbées par un report d'une semaine et des violences qui ont fait 53 morts, le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation des électeurs hier, soulignant l'importance de ce scrutin qu'il a comparé à la présidentielle et aux législatives. Il faut dire que dans cet État fédéral, les prérogatives et l'autonomie des gouverneurs leur confèrent énormément de pouvoir. Les enjeux de ces élections, c'est dans Décryptage ce soir. Bonsoir Emmanuel Higa.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes franco-nigérian, géopolitologue et auteur et éditeur de Nigeria Vademecum, qui paraîtra prochainement en France, un livre consacré au développement du pays. Et nous sommes au téléphone d'Abuja avec Christopher Fomugno. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur régional Afrique au National Democratic Institute, une ONG qui soutient la démocratie. Elle est basée à Washington. Et vous participez en ce moment à une mission d'observation internationale pour ces élections nigérianes. Alors, je le disais en introduction, l'élection des gouverneurs est cruciale dans le pays en raison du pouvoir de ces derniers. Emmanuel Higa, quelles sont les prérogatives des gouverneurs nigérians ?
Les gouverneurs sont des autorités extrêmement puissantes au Nigeria. Le Nigeria est structuré donc en une fédération de 36 États, avec la capitale fédérale aussi qui arrive comme une 37e structure. Il faut le comparer à la fédération américaine, avec les États et Washington comme capitale. Mm. Bon, au Nigeria, donc, ces 36 gouverneurs, pratiquement, d'ailleurs, dans leur titre, on a le terme de exécutive qui précède le terme de governor. Donc, ce sont des gouverneurs exécutifs. Ils ont autant de pouvoir presque que le président de la République, sauf peut-être les responsabilités régaliennes en ce qui concerne par exemple les domaines de la défense, de la police, la sécurité, etc., les affaires étrangères. Mm-hmm. Ça revient donc au président de la République, mais à part ça, toutes les structures administratives qu'on trouve au niveau fédéral, tous les ministères presque sont répliqué au niveau des États sous l'autorité du gouverneur. Donc, il a les ministères de la santé, les ministères de l'éducation, etc.
Ça veut dire aussi un budget très important, on le verra dans certains États, qu'il a
absolument
à gérer.
Oui, il gère des budgets de plusieurs millions d'euros équivalents, donc en naira, la monnaie locale, par mois, donc qui tire, le gouverneur tire son budget du pouvoir, enfin disons de la niveau fédéral, le trésor national qui partage les ressources du pays entre le pouvoir central, les 36 États et 774 gouvernements locaux. C'est un peu comparable aux communes en France, sauf que c'est beaucoup plus, sans des structures au niveau local, beaucoup plus grosses que les communes. Les 36 États sont en France, par exemple, comparables aux régions, aux 13 régions de France.
Avec une autonomie, voilà, évidemment, que les régions françaises n'ont pas,
voilà,
un pouvoir qu'elles n'ont pas non plus, et on comprend en tout cas que les gouverneurs ont en main tous les sujets qui concernent le quotidien aussi de leurs administrés. Christopher Fomugno, comment sont perçues ces élections par les Nigérians ? Est-ce qu'elles sont perçues comme tout aussi importantes que la présidentielle, ou encore plus, puisque justement, elles ont une forte incidence sur leur vie quotidienne ?
Je crois que ça varie selon les États, parce qu'il y a certains États dans lesquels ces élections sont considérées comme des élections de proximité et donc beaucoup plus significatives que les élections présidentielles. Il faut aussi noter que certains des États nigériens ont une population beaucoup plus grande et un budget beaucoup plus important que certains États africains. Mmh. Donc un État comme Lagos, un État comme Kano, avec des populations de dizaines de milliers de populations, pèse vraiment dans l'économie nigériane. Et le gouverneur étant le chef exécutif, donc la principale autorité politique dans l'État. C'est un poste à convoyer et la compétition risque d'être assez rude dans certains de ces États-là.
Alors, l'élection des gouverneurs nigérians, comme les élections générales, sont décalées d'une semaine. Le report a d'ailleurs pesé sur la mobilisation des électeurs. Propos recueillis quelques jours avant les élections générales du 23 février par notre envoyé spécial Binta Diagne.
J'ai été déçu par le report. Ce genre de choses n'arrive qu'ici. L'organisation à la nigériane m'a totalement dégoûté. Mais je n'ai pas le choix, j'irai quand même voter.
Je ne porte pas trop d'espoir sur cette élection. Aucun candidat ne répond à nos attentes. En 2015, on a voté le changement. Mais en vérité, la situation a empiré. Et aujourd'hui, le PDP revient pour proposer à son tour le changement ? Je n'y crois pas.
Le 23 février, seuls près de 40% des électeurs sont allés voter. Manuel Higa, est-ce que vous pensez que ces problèmes d'organisation risquent de peser aussi sur les élections de samedi ?
Alors, d'abord, je pense que les Nigérians se souviennent de ce report in extremis qui a été ressenti comme un choc. Et on espère que le même coup ne se souviendra pas dans deux jours quand ces élections auront lieu et qu'à la dernière minute, on vient nous annoncer qu'il y a des problèmes logistiques ou d'autres problèmes et qu'on ne puisse pas, ne pourra pas tenir les élections. Je pense que beaucoup de Nigérians n'ont pas pu, après ce report des élections présidentielles, retourner à leurs bases, leurs états d'origine, leurs villes d'origine, où beaucoup de Nigérians préfèrent aller voter. Donc, ils se sont inscrits dans leurs états d'origine. Et quand il y a eu ce report, ils avaient déjà fait un premier voyage. Ils souhaitaient pas faire un deuxième voyage, financé de leur poche, pour aller voter. Donc, ça, c'était une raison qui avait principalement donc fait baisser le taux de participation aux présidentielles. Pour ces élections au niveau des États, je pense que ce qui risque de jouer, c'est une certaine déception d'une grande partie quand même de l'électorat qui n'a pas peut-être perçu les résultats annoncés aux élections présidentielles comme des résultats crédibles. Donc on a beaucoup d'États où le vote a eu lieu, mais l'électorat a tendance à penser que leurs votes n'ont pas été pris en compte.
Avec des annulations de
votes dans certains états. Des annulations, parfois des urnes qui ont été arrachées une fois remplies de bulletins et qui ont été brûlées. Et on ne sait pas dans quelles conditions la commission électorale nationale indépendante a pu sortir des chiffres pour ces états-là.
Christopher...
Donc il y a un problème de démobilisation possible à cause de la crédibilité, l'intégrité de l'élection présidentielle.
Alors, justement, on va se tourner vers Christopher Foumounio qui est sur place à Abuja. Est-ce que vous sentez, vous aussi, une certaine lassitude des électeurs et craignez que cela joue également sur la participation samedi ?
Je crois que ça va varier d'un État à l'autre parce qu'il faut se mettre à l'esprit qu'il s'agira de 29 États, donc à peu près de 29 élections organisé et supervisé par des commissions au niveau des États, que dans les 29 États, il y a des États qui sont compétitifs, où les élections seront vraiment serrées, comme Lagos, comme Kaduna, comme Abia State, Imo. Dans ces États-là, il sera possible qu'on voit un engouement et une participation massive. Par contre, dans une vingtaine d'autres États, les jeux sont déjà faits.
Oui.
On sait quel parti et quel candidat a une avancée, une avancée par rapport à la compétition. Donc là, on pourra s'attendre à un taux de participation moins important.
Oui, on comprend. Effectivement, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes d'un État à l'autre. Emmanuel Higa, la présidentielle s'est jouée entre les candidats de deux grands partis, l'APC du président réélu, Mouamadou Bouhari, et le PDP d'Atiku Abubakar, donc candidat malheureux. Est-ce que l'élection des gouverneurs se joue aussi entre ces deux grands partis historiques ?
Dans certains États, oui, la majorité des États, ce rapport de force entre deux principaux partis risque de se transposer dans beaucoup d'États. mais il y a des régions quand même qui sont, disons, des forteresses de certains partis bien particuliers. Je pense à la région Est, la région principalement de l'ethnie Igbo, qui est sous la domination, disons, du parti APGA, qui est un parti où il y a une prédominance des populations Igbo. Donc, ce parti-là risque donc de l'emporter devant le PDP ou l'APC, dont les cinq États de cette région.
Ça veut dire que les cartes, quand on regarde les résultats de la présidentielle et celles des élections des gouverneurs, ne sont pas forcément calcables. Ce ne sont pas les mêmes représentations.
Non, ce n'est pas forcément calcable. Il y a un troisième parti aussi, le SDP, qui risque de jouer pour les troubles faits entre le PDP et l'APC dans certains États. Donc ça va pas être totalement transposable, mais je pense que dans la majorité des cas quand même, ce sera soit APC, soit PDP.
Alors pour qu'on comprenne bien, quelle incidence ça aurait pour le président Bouhari qui vient d'être réélu, que son parti se retrouve en minorité dans les États nigérians après les élections de samedi?
Alors, c'est déjà arrivé. Mais ça pose un petit problème pour le président qui a besoin quand même de s'appuyer sur les gouverneurs pour faire passer ses politiques, sa politique au niveau des États. Donc tout ce qui est politique au niveau de la sécurité, au niveau, disons, par exemple, de la lutte contre le chômage, la pauvreté, qui vont être des sujets très cruciaux après les élections, parce que il y a un grand problème de ce côté-là. Ils ont besoin de s'appuyer sur des gouverneurs qui ont de la bonne volonté, donc qui peuvent relayer le travail du président au niveau de leurs États.
Vous avez parlé de pauvreté. Le pouvoir d'achat, c'est important pour beaucoup de Nigérians, surtout depuis la chute des cours du pétrole. Moïse Gomis a rencontré un ménage appartenant à la classe moyenne dans une banlieue d'Abuja. Malgré un double salaire, le couple a du mal à joindre les deux bouts.
Ce que je pouvais acheter en 2011 avec 125 euros a diminué de presque moitié par rapport à ce que je peux acheter aujourd'hui avec une somme identique. On a juste le choix entre deux mauvaises solutions. On a l'impression qu'il n'y a que la popularité qui compte. Moi, franchement, je ne comprends pas qu'ici au Nigeria, on privilégie la popularité à la compétence. Si en 2019, j'entends toujours la même rengaine des candidats qui viennent nous dire « je vais vous construire de bonne route », alors c'est vrai qu'il y a un problème.
Christopher Fomugno, est-ce que les thèmes de campagne sont adaptés aux spécificités de chaque État? Je suppose que les problèmes de Lagos ne sont pas les mêmes qu'à Benue ou Maïdougouri.
Oui, tout à fait. Ça se joue vraiment à l'intérieur des États et en tenant compte des spécificités de chacun de ces États. Il faudra aussi, pour rajouter au point qui a été soulevé tout à l'heure par le copanéliste, que dans certains États, les candidats ne sont même pas sur la même longueur d'onde que leur propre parti politique. Il y a des États, par exemple, comme Ogun State, où le candidat de l'APC n'est pas soutenu par le gouverneur qui est du même parti. Il y a un État aussi comme Imo, où le candidat, bien que le gouverneur sortant, bien que de l'APC, donc du parti majoritaire, soutient un autre candidat. Donc, il y a un jeu politique à l'intérieur de chaque État qui va influencer les résultats du scrutin.
Ça veut dire qu'on vote plutôt pour une personnalité que son étiquette politique dans les États?
C'est assez drôle parce que les candidats ne seront, ce sont les partis politiques qui seront sur le bulletin. Donc, les électeurs vont voter pour le parti. Il est bien entendu que pour certains partis, les candidats sont connus à l'avance, mais compte tenu du nombre du contentieux électoral qui traîne encore devant certains tribunaux, ce n'est qu'après le scrutin qu'on saura qui a été le candidat retenu par le parti politique qui aurait gagné le scrutin.
On comprend effectivement une certaine défiance alors chez les électeurs, évidemment. Emmanuel Léga, je vous propose qu'on s'arrête sur l'état de Lagos. C'est le plus peuplé, on parle de 12 à 13 millions d'habitants. C'est l'équivalent, on le disait tout à l'heure, d'un pays à lui tout seul. Il représente 60% du PIB du Nigeria. Depuis 1999, c'est l'APC de Muhammadu Buhari qui est aux commandes. L'État pourrait basculer samedi?
Ah oui, l'État de Lagos est ce sera une élection très disputée, mais il faut quand même dire que l'un des bras, disons les bras droits de Buhari, qui est une sorte de faiseur de roi, hein, c'est Bola Tinubu, un richissime homme d'affaires, qui décide un peu de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à Lagos, et c'est lui qui a mis en place le gouverneur sortant. Et le gouverneur sortant, d'après ce qu'on a entendu, a énormément bien travaillé, a fait avancer le développement de Lagos, mais il y a eu des couacs, des problèmes au niveau de ses relations avec ce monsieur Tinubu, qui est une personnalité importante de APC, à telle enseigne que le parti a décidé, sous la houlette de ce monsieur, de le priver de son deuxième mandat. Vous savez, les gouvernants ont le droit de faire deux mandats de 4 ans. Mmh. Donc, il était à son premier mandat et on l'a privé aux primaires de sa victoire aux primaires pour pouvoir se briguer le deuxième mandat.
Pour l'APC, donc, on a pris, perdre, pour l'APC. Et pour l'APC, perdre l'état de Lagos, ce serait une claque pour
Le monsieur Bola Tinubu, bien sûr, mais pour le président Buhari. Donc, Buhari particulièrement, il a fait plusieurs meetings à Lagos pour s'assurer de la victoire de APC à Lagos. Donc là, pour Lagos, on ne sait pas encore trop, mais ça va être un peu difficile pour APC. Mais bon, peut-être l'APC devrait l'emporter normalement.
Christopher Fumugno, il y a un autre grand bassin d'électeurs, c'est Kano, dans le Nord. 900 000 voix du PDP du candidat Aboubakar ont été annulés lors de la présidentielle. Est-ce que ces gouvernorales, ces élections, s'annoncent tendues par conséquent?
Effectivement, Kano est aussi à suivre de près, sauf que lundi, le tribunal de Kano a pris une décision comme quoi le candidat retenu par le PDP ne devrait pas figurer sur le bulletin et que ce n'était pas le bon candidat. Donc, ce qui voudrait dire que dans le camp de l'opposition, donc dans le camp du PDP, il y a eu une confusion totale par rapport à la candidature qui devrait être présentée samedi, ce qui, en quelque sorte, pourrait faciliter la tâche à l'APC. Mais vous avez tout à fait raison, l'élection à Kano mérite une attention particulière.
Oui. Il y a eu le même scénario que ce que M. Fumugno vient d'expliquer dans trois autres États, l'État de Rivers, où APC a été privé de candidature, l'État de Delta, l'État de Zamfara. Et donc, ce sont des États déjà perdus d'avance pour l'APC.
Et quelques mots sur l'État de Rivers, où à chaque fois, on assiste à des violences. 16 personnes tuées lors de la présidentielle. Il y avait eu déjà donc des violences en 2015. Un État donc aussi à surveiller pour ces raisons.
Oui.
Emmanuel Liga, peut-être.
Oui, alors parce que l'un des gouverneurs les plus farouchement opposés au président Buhari, c'est le gouverneur actuel de l'État de Rivers, il tient à maintenir l'État de Rivers pour le PDP. Or, l'ancien gouverneur et actuel ministre des Transports de Buhari vient donc de cet état-là et tient à arracher cet état-là au PDP.
Un état très important, évidemment, c'est un état pétrolier. En tout cas, merci messieurs. On comprend grâce à vous toute l'importance de ces élections donc à venir samedi, que l'on va évidemment suivre sur RFI. Merci Christophe Fumugno, donc en mission d'observation internationale à Abuja. Emmanuel Liga, on va suivre la parution de votre livre, Nigeria via Demecom. Et merci à toute l'équipe de décryptage, Louise Caldec, Eugénie Ducré, Emmanuel Sevin et Claude Battista.